Le samedi saint, vous le savez, est spécialement consacré à la Sainte Vierge. Pendant toute cette journée où Notre Seigneur est au tombeau, l'Église reste en compagnie de Notre-Dame, qui a gardé dans son cœur la foi, alors que les apôtres sont un peu désemparés, ils ont fui, ils ne savent plus très bien où ils en sont, la foi dans leur cœur est ébranlée. Et Notre-Dame concentre dans son âme toute la foi de l'Église. Elle est plus que jamais le type de l'Église. Alors, ce que je vous propose, là, c'est de méditer un petit peu sur l'apparition de notre Seigneur à la Sainte Vierge. Notre Seigneur ressuscité est apparu à la Sainte Vierge. C'est pas deux fois. Les évangiles, d'ailleurs, n'en parlent pas, justement. Ça peut paraître un peu curieux. Et il est pas rare même de trouver des gens qui se demandent un petit peu avec anxiété, mais pourquoi notre Seigneur n'a-t-il pas visité sa mère au tombeau, alors qu'on voit Sainte Marie-Madeleine, les apôtres, tout le monde court au tombeau dès que la résurrection de notre Seigneur est annoncée, et Notre-Dame, il n'en est pas question. Les évangiles sont d'un silence qui nous paraît un petit peu étonnant à cet égard. Et l'autre question qu'on peut se poser, est-ce que notre Seigneur lui-même ne l'a pas visité? Les évangiles gardent le silence, mais enfin, est-ce qu'il n'est pas convenable de penser que notre Seigneur a réservé sa première apparition à sa mère? Alors voilà, c'est de cela que je voudrais vous dire un petit mot. Notre-Dame paraît absente, elle n'a pas visité le tombeau, mais Jésus certainement l'a visité. C'est même une évidence. Alors c'est ce que je voudrais vous montrer un petit peu. Si vous voulez, on peut voir la question en deux points, deux temps. D'abord, se demander pourquoi il convenait que notre Seigneur apparût à Notre-Dame en premier lieu. Il y a des convenances qui sont très fortes. Et encore une fois, ça n'est pas une question de foi, mais c'est quelque chose qui est important pour notre vie intérieure, pour notre dévotion, et qui nous aide à mieux comprendre le rôle de Notre-Dame dans l'économie du salut. Et puis l'autre question, c'est pourquoi les évangélistes gardent le silence? Pourquoi les évangiles n'en parlent pas? Ça paraît un petit peu étonnant, et en fait ça ne l'est pas. C'est même, il y a derrière des raisons qui sont très profondes. Alors d'abord, pourquoi il convenait que notre Seigneur apparût à Notre-Dame en premier lieu, avant même de se montrer ressuscité à qui que ce soit? C'est une évidence. Alors cette évidence, elle repose sur un certain nombre de faits. On peut donner trois raisons principales pour lesquelles notre Seigneur devait apparaître à sa mère. La première, c'est que la résurrection de notre Seigneur, c'est comme une nouvelle naissance. D'ailleurs, le psaume 2e qu'on a eu le jeudi saint, c'était, si je ne me trompe, le premier psaume des matines. Peut-être pas le premier, non. Le premier psaume du vendredi saint. Le premier psaume des matines du vendredi saint. Dans ce psaume, il est dit « Odie genuite, aujourd'hui je t'ai engendré ». Donc c'est un psaume messianique. Et que je retrouve exactement le texte. Oui, c'est ça, c'est le premier psaume du vendredi. Quare fremuerunt gentes et populi meditati sunt inania. Alors, un peu plus bas, il est dit Dominus dixit ad me, le Seigneur m'a dit, Filius meus est tu, vous êtes mon fils, ego odie genuite. Aujourd'hui, je vous ai engendré. Alors, ce psaume, on le chante à Noël surtout, parce qu'à Noël, on fête la génération temporelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le psaume s'applique aussi à la génération éternelle, puisque c'est Dominus dixit ad me, le Seigneur, le Père, dit à son fils, vous êtes mon fils, aujourd'hui je vous ai engendré. Dans ce cas-là, c'est un aujourd'hui éternel. Et puis ça s'applique aussi à la résurrection. C'est si vrai que saint Paul cite à trois reprises dans ses épîtres ce psaume, et une des fois, au moins, dans l'épître aux Hébreux, il l'applique à la résurrection de notre Seigneur. Donc quand notre Seigneur sort vivant du tombeau, c'est comme une nouvelle naissance. Le Père lui dit à nouveau ce jour-là, « Aujourd'hui, je t'ai engendré. » Il est engendré à une nouvelle vie, une vie qui est cette fois incorruptible. Son corps est désormais glorieux. Il y a comme un renouvellement qui s'apparente à une naissance. Donc c'est une vie nouvelle en notre Seigneur. Hein. Et cette vie nouvelle, qui est impassible, qui est lumineuse, le corps glorieux de notre Seigneur, quand il apparaît à ses apôtres, il apparaît tout lumineux, même s'il est tout à fait semblable au corps qui était le sien quand il était au milieu d'eux. Hein. Alors puisque c'est une naissance, on peut se poser la question de savoir quel est le rôle de la Vierge Marie dans cette naissance. Dans la première naissance de notre Seigneur, sa naissance temporelle, le rôle de la Vierge Marie est évident. C'est d'elle que notre Seigneur a reçu son corps humain. Donc elle est la mère non seulement de notre Seigneur en tant qu'homme, mais elle est même la mère de Dieu, parce que la mère est forcément mère de tout son enfant. Or, comme c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité qui s'est fait homme, ben Notre-Dame est mère de tout l'ensemble, et pas simplement du corps de notre Seigneur ou de son humanité. Elle est mère de Dieu. Alors, qu'en est-il de cette deuxième naissance, hein ? Dans la première naissance, donc, notre Seigneur est né à une vie temporelle, souffrante, passible et obscure. Il a voulu prendre de la Vierge Marie un corps humain pour pouvoir souffrir. Il n'a pas pris le péché, mais il a pris tout le reste. Et il a voulu que cette naissance reste toute environnée d'obscurité. Il est né dans une crèche, ignoré des hommes, rejeté de tous les habitants de Bethléem. Il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie. On peut même dire que ça n'était pas une place pour lui. C'est pas simplement qu'il n'y avait pas de place, qu'il y avait trop de monde. Mais l'hôtellerie de Bethléem était sans doute un lieu, sinon mal famé, du moins pas très... c'était pas tout à fait le lieu privilégié, recommandé pour la naissance du Sauveur. Donc ça n'était pas une place pour lui. Et pendant 30 ans, il va rester dans l'obscurité la plus complète, habitant à Nazareth, un tout petit village, ignoré, dont il est question dans le Nouveau Testament, dont il n'est même pas question dans l'Ancien Testament. S'il n'y avait pas le Nouveau Testament, on ne connaîtrait même pas Nazareth. Donc, cette première naissance, vous voyez, dans cette première naissance, Marie apparaît seule. Bien sûr, Dieu est intervenu, le Saint-Esprit est intervenu, la vertu du Très-Haut a agi, et c'est par la vertu du Très-Haut que l'enfant Jésus a été conçu dans le sein de la Vierge Marie. Mais c'est Notre-Dame, d'une certaine manière, qui a le rôle principal, si on peut dire, au moins, en tout cas, le rôle le plus visible. Dans la deuxième naissance, cette naissance de la résurrection, là, c'est le Père éternel qui agit directement. Il n'y a même pas eu de témoins. Il y aura des témoins de Jésus ressuscité, mais il n'y a pas eu de témoins de sa résurrection. Personne n'a assisté à la résurrection. Alors que pour la première naissance de notre Seigneur, il y avait la Vierge Marie, bien sûr, puis Saint Joseph. Donc là, c'est le Père éternel qui agit directement, qui en quelque sorte se penche sur son Fils inanimé, et puis qui le réchauffe de son souffle, qui lui redonne, qui lui recommunique cette vie, qui lui rend son âme et qui fait que notre Seigneur sort vivant du tombeau. Alors on peut dire que c'est notre Seigneur lui-même qui se ressuscite puisqu'il est le Fils de Dieu. Si c'est Dieu qui le ressuscite, le Père qui le ressuscite, c'est aussi lui-même. Mais Dieu ne peut pas être séparé. Voilà. Donc cette fois, la vie à laquelle il naît, c'est une vie éternelle et impassible et lumineuse. Donc vous voyez qu'il n'a pas grand-chose à voir apparemment avec cette première vie qu'il a reçue dans la crèche, qu'il a reçue à Nazareth d'abord, le jour de sa conception, puis ensuite dans la crèche quand il est né. Voilà. Alors on peut se demander, cette vie nouvelle, on peut croire qu'elle le rendait étranger à la Vierge Marie, puisqu'elle n'a pas du tout de rôle, semble-t-il, dans cette nouvelle naissance. Donc Notre-Dame, son rôle est terminé, il est achevé, donc c'est normal qu'elle ne soit pas, en quelque sorte, convoquée au moment de la résurrection et qu'elle reste de côté. En fait, il n'en est rien. Parce que quand Jésus ressuscite à cette vie nouvelle, il reste le Fils de Marie. Ce corps glorieux qui se manifeste au jour de sa résurrection, il n'est pas d'une autre nature que le corps terrestre qu'il a reçu du sein de la Vierge Marie. C'est le même. Le mode de change, la vie qui apparaît glorieuse en notre Seigneur n'est plus tout à fait identique à ce qu'elle était, mais ce n'est pas une nouvelle vie au sens fort du mot, ce n'est pas une nouvelle nature, il n'a pas reçu un autre corps que celui qui était le sien. Donc il reste le Fils de Marie, ce n'est pas un autre, et comme la Vierge Marie est mère de tout son Fils, quel que soit son statut, ben elle reste tout à fait sa mère, même après la résurrection. On peut dire en fait que la vie nouvelle que notre Seigneur reçoit, c'est en quelque sorte le refleurissement sous une forme glorieuse de la vie humaine qu'il avait puisée en sa mère. Sa vie terrestre, son corps humain, reste le don de sa mère. Sa chair transfigurée n'a pas changé de nature. Elle reste la chair de notre Seigneur reçue de la Vierge Marie. Donc ce que Jésus doit à sa mère, il continue de le devoir même après sa résurrection. De ce point de vue-là, il n'y a pas de changement. Alors, du coup, on voit bien que la Vierge Marie garde un rôle dans cette résurrection. Elle ne peut pas y être étrangère. Même si elle avait agi seule en quelque sorte, encore que le Dieu avait agi à travers elle, dans la première naissance, même si le Père éternel agit seul directement dans cette résurrection, Marie garde toute sa place de mère de Dieu. Donc on pourrait même, en faisant une accommodation, dire que le texte du psaume 2, « Dominus dixit ad me filius meus est tu ego die genuite », le Seigneur me dit, « Vous êtes mon fils, aujourd'hui je vous ai engendré », on pourrait transformer un peu le texte en disant « Maria dixit ad me », la Vierge Marie me dit « Vous êtes mon fils, aujourd'hui je vous ai engendré ». C'est toujours la Vierge qui engendre notre Seigneur quant à son humanité. De ce point de vue-là, il n'y a pas de changement. Alors son humanité glorieuse, la glorification de son humanité ne vient pas de la Vierge Marie, c'est clair, mais elle reste tout à fait la mère de notre Seigneur, de sa sainte humanité, et donc même mère de Dieu, mère de tout ce qu'est notre Seigneur, à la fois homme et Dieu. Donc ça, c'est la première raison. Donc la Vierge Marie n'est pas étrangère à la résurrection. Elle y a un rôle, même si ce rôle est tout à fait effacé, obscur, secret. La deuxième raison, qui est plus importante d'une certaine manière, mais elle découle un peu de la première, c'est que Notre-Dame a été intimement associée à tous les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ. Au mystère de sa naissance, bon ça c'est clair, mais aussi au mystère de la rédemption. Elle n'est pas simplement associée à l'incarnation, elle est associée aussi à la rédemption. Elle était au pied de la croix. Et elle n'était pas là simplement comme spectatrice. Elle n'a pas simplement vu ce qui se passait, mais elle s'y est associée au plus intime d'elle-même. Tout ce que notre Seigneur a souffert dans sa chair, Notre-Dame l'a souffert dans son cœur. On peut dire que les coups de marteau qui ont planté les clous dans les mains et les pieds de notre Seigneur, la lance qui a percé son cœur, les épines qui ont percé sa tête, tout ça Notre-Dame l'a ressenti dans son cœur. Et si elle avait pu elle aussi mourir, donner sa vie, elle l'aurait fait. Ça n'était pas possible, mais elle a connu une mort mystique d'une certaine manière, à défaut de mort réelle, de mort naturelle. Donc elle est parfaitement associée au point même que dans la doctrine qui déclare Notre-Dame co-rédemptrice, on dit que tous les mérites que notre Seigneur a acquis sur la croix, Notre-Dame aussi y a participé. Et d'une certaine manière, il y a la même coextension des mérites du Christ et des mérites de la Vierge. Simplement, tous les mérites de Notre-Dame n'ont de valeur méritoire qu'en vertu des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc elle est complètement comme assimilée par l'action rédemptrice que notre Seigneur a accomplie. Le sacrifice de Notre-Dame ne fait pas nombre. Il ne s'ajoute pas au sacrifice de notre Seigneur. Il n'y a pas deux sacrifices qui se joindraient l'un à l'autre pour former un sacrifice complet. Le sacrifice de notre Seigneur est largement suffisant. lui seul est nécessaire et lui seul nous acquiert vraiment le salut. Mais notre Seigneur a voulu que le sacrifice de sa mère soit comme associé, assimilé au sien, et qu'il ait la même extension. Je crois que c'est Saint Jean Eudes comparait ce mystère à deux grains d'encens qui sont posés, enfin deux charbons ardents, deux grains d'encens qui sont posés sur le même charbon ardent, dans un encensoir. Le sacrifice de notre Seigneur est un sacrifice unique, mais dans lequel la Vierge Marie a une part prépondérante par rapport à la part que nous pouvons ajouter. Dieu, notre Seigneur, veut continuer sa passion en chacun d'entre nous. Il veut que nous ajoutions ce qui manque à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est saint Paul qui le dit, c'est tout à fait vrai. Non pas qu'il manque quelque chose en soi à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est largement suffisante, mais notre Seigneur veut continuer de souffrir en Pierre, Paul, Jacques, Jean, enfin, en chacun d'entre nous. Parce qu'il veut que cette passion qui doit nous être appliquée, nous coopérions par sa grâce et à travers sa grâce. Et bien, c'est un phénomène qui vaut d'abord pour Notre-Dame et de manière éminente. Donc elle est vraiment associée, hein. C'est le titre que la théologie lui donne, elle est sociata, elle est associée au mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est co-rédemptrice. Donc quand on fête la compassion de Notre-Dame, on ne fête pas simplement le fait que Notre-Dame a éprouvé dans son cœur une compassion, c'est-à-dire qu'elle a compati, comme on l'entend au sens humain du mot, aux souffrances de notre Seigneur. Elle a été émue par ses souffrances et elle a voulu participer de tout son cœur. C'est plus que ça, c'est une compassion au sens strict du mot. Donc la passion de notre Seigneur, elle l'a vécue elle aussi. Il y a une passion de Notre-Dame, tout comme il y a une passion de notre Seigneur. Donc si elle a vraiment été associée à ce point, à toute l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il est tout à fait convenable et normal qu'elle soit associée aussi à sa résurrection. Parce que c'est le même mystère. Si notre Seigneur n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine, dit saint Paul. Le mystère de la rédemption s'achève par la résurrection et l'ascension. On ne peut pas isoler chacun de ces mystères l'un de l'autre. Il n'y a pas de rédemption sans résurrection, et il n'y a pas non plus de résurrection sans rédemption. Dans le monde progressiste actuel, on voudrait que notre Seigneur soit purement ressuscité, sans qu'il ait souffert, et sans que nous ayons à souffrir. Il n'y a plus de sacrifice. D'ailleurs, on voit souvent sur les croix modernes qui sont dans les églises, on représente notre Seigneur ressuscité sur la croix. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas, qui ne va pas. Alors c'est vrai qu'au Moyen-Âge, on représentait souvent notre Seigneur sur la croix, crucifié, mais habillé. Mais il était avec des vêtements sacerdotaux et une couronne royale pour montrer que notre Seigneur est non seulement sauveur, mais qu'il est aussi roi et qu'il est aussi prophète, prêtre. On ne voulait pas du tout dire que on voulait pas minimiser le sacrifice de notre Seigneur, la crucifixion, au profit de la résurrection. Les deux vont ensemble, on ne peut pas les séparer, c'est inséparable. Ce n'est pas possible de considérer l'un sans l'autre. Alors si Notre-Dame a été associée à la crucifixion de notre Seigneur à un point si éminent, si profond, il est normal qu'elle soit associée aussi à sa résurrection. Et donc il fallait d'une certaine manière que notre Seigneur lui réserve sa première apparition, une fois ressuscité. Voilà. Elle a passé par où notre Seigneur est passé, de même que l'Église doit passer par où notre Seigneur est passé. C'est pour ça que l'Église doit connaître elle aussi sa passion. D'ailleurs, vous savez que Notre-Dame est le type même de l'Église. Donc si Notre-Dame a connu la passion au pied de la croix, ça veut dire que l'Église elle-même doit aussi connaître sa passion. Enfin, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, d'une certaine manière. Voilà. Alors, c'est vrai que Notre-Dame ne connaîtra pas la résurrection au sens strict du mot, comme notre Seigneur l'a connu au moment même de Pâques. C'est plus tard, au moment de son Assomption. Vous savez que dans le dogme de l'Assomption, il y a plusieurs vérités qui sont incluses. L'Assomption nous permet de croire que Notre-Dame a été préservée de la corruption du tombeau. Elle est montée au ciel avec son corps pour connaître tout de suite la gloire du ciel. Mais précédemment, il y a une croyance qui est universelle, même si elle n'est pas déclarée comme un dogme de foi, hein, c'est la mort d'amour de Notre-Dame. Notre-Dame est morte. Et c'est tout à fait convenable, puisque notre Seigneur est mort, et puisqu'elle doit suivre exactement, passer par où notre Seigneur est passé, suivre exactement les mêmes voies, le même cheminement que notre Seigneur. Et ben elle devait elle aussi mourir, mais elle est morte d'amour. Sa passion, elle l'a connue avant, au moment de la passion de Jésus, quand elle était au pied de la croix, à côté de notre Seigneur. Iuxta crucem, qu'elle se tenait là debout. Donc au moment où elle connaît cette mort d'amour, ça n'est pas du tout une mort douloureuse, c'est une mort d'amour. Elle est tellement désireuse d'être unie à notre Seigneur qu'en quelque sorte, son âme ne peut pas rester unie à son corps. Il faut que cette âme rejoigne notre Seigneur. Il y a comme une attirance, comment dire, je trouve pas le mot, mais irrépressible, elle ne peut pas empêcher cela. Et donc elle meurt d'amour, et aussitôt son corps est élevé avec son âme au ciel, donc l'Assomption suit immédiatement la mort d'amour de Notre-Dame. Alors d'ailleurs à Jérusalem, on célèbre ça, enfin c'est comme marqué même dans les pierres, puisque à l'endroit de c'est le lieu du Cénacle, hein. C'est une église qui aujourd'hui porte un nom que j'ai oublié, qui est tenue par les bénédictins. Enfin, c'est le lieu donc de la dormition de Notre-Dame, et la tradition veut que les apôtres l'aient portée elle-même dans son tombeau, qui se trouve juste à côté de Gethsémani. Donc par rapport au Cénacle, vous voyez, c'est le même cheminement que notre Seigneur a suivi le jeudi saint au soir. Et dans ce tombeau qui se trouve là, qui est dans une grotte, hein, qui est plus ou moins souterrain, hein, c'est un tombeau qui n'a jamais servi. Un tombeau enfin, dans lequel Notre-Dame a été déposée, mais ce tombeau est vide. Hein, et parce que quand le lendemain les apôtres sont revenus, Notre-Dame était ressuscitée. Et elle était montée au ciel avec son corps. Donc elle a connu, elle aussi, la résurrection, tout comme notre Seigneur, mais avec un certain décalage de temps. Hein, voilà. Alors, encore une fois, même cette présence du tombeau de la Vierge à Jérusalem, et tout, c'est pas deux fois, hein. Mais enfin, c'est une tradition qui est unanime et qui remonte au tout premier siècle de l'Église. Voilà. Alors, vous savez qu'il y a une autre tradition qui veut que Notre-Dame soit morte à Éphèse. Il y a un tombeau de Notre-Dame à Éphèse aussi, hein. Mais c'est peu probable. Parce que, comme elle était, Saint Jean l'avait pris chez elle, après que notre Seigneur lui ait donné au pied de la croix. Hein, il l'a pris in sua, comme dit l'Évangile, hein, donc dans son cœur, mais aussi physiquement, chez lui. Hein. Alors, comme Saint Jean est devenu évêque d'Éphèse, il est mort à Éphèse, on a supposé que la Vierge Marie, elle aussi, était morte à Éphèse. Hein. Mais la tradition de Jérusalem est beaucoup plus étayée, beaucoup plus forte, hein, beaucoup plus universelle. Alors, donc Notre-Dame, hein, il était convenable, elle aussi, qu'elle soit la première associée à la résurrection de notre Seigneur. Et puis une troisième raison, hein, cette foi, pour terminer tout de même sur la deuxième raison, nécessité, cette convenance très forte qui voulait que Notre-Dame fût associée à la résurrection de notre Seigneur, comme elle avait été associée à sa passion, ça implique forcément qu'il fallait qu'elle vit notre Seigneur ressuscité. C'était nécessaire. Hein. On ne peut pas dire qu'il suffisait qu'elle le sache. Elle savait que notre Seigneur était ressuscité. Elle croyait, elle. Elle connaissait parfaitement les Écritures. Elle avait absolument pas les incertitudes ou les doutes ou les hésitations que les apôtres rencontraient à ce moment-là. Hein. Donc elle était dans une paix parfaite. Et même, on peut dire, dans une allégresse certainement, à savoir que le salut du monde était réalisé par cette crucifixion de notre Seigneur. Savoir, c'est une chose, voir, c'en est une autre. Hein. On peut difficilement penser que notre Seigneur l'aurait privé de cette visite, hein, alors qu'il était ressuscité. Comme elle avait suivi justement toutes les affres de la Passion, hein, qu'elle avait entendu tous les gémissements de notre Seigneur, qu'elle avait peut-être vu même la flagellation, qu'elle l'avait vu sur le chemin du calvaire, qu'elle l'avait vu au pied de la croix, qu'elle était là debout, hein. Même, je ne sais pas si vous avez remarqué, noté, les mots de l'évangile, ils sont très beaux, hein. Stabat mater Jesu juxta crucem. La Vierge Marie se tenait debout. Stare, ça veut dire être debout, hein. Elle est, bien sûr que elle est, on a à partir du 15e, 16e siècle, dépeint Notre-Dame, mater dolorosa, comme effondrée de douleur. Bien sûr, le mot dolorosa est tout à fait véridique et bien choisi. Mais Notre-Dame n'est pas effondrée, elle n'est pas écrasée par la douleur au point qu'elle s'effondre par terre. Elle est debout, hein, parce qu'elle unit son propre sacrifice au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme lui, elle se donne. Encore une fois, si elle avait pu mourir à ce moment-là, elle a donné certainement sa vie, tout comme notre Seigneur a donné la sienne. Et elle est juxta crucem, elle n'est pas loin. Il est dit des saintes femmes, et il est dit surtout de saint Pierre, qu'il regardait de loin, des longs jets, pour voir comment les choses allaient suivre, allaient finir. Et certainement cet éloignement de saint Pierre, ben, explique en quelque sorte un peu son reniement. Il était trop loin, justement. Quand on est loin de notre Seigneur, quand on n'est pas tout près, eh bien on ne profite pas de sa grâce au même titre. La Vierge Marie, elle était juxta crucem. Donc comme elle a vu tout ça, hein, qu'elle a entendu même le cri de notre Seigneur mourant, hein, ce cri par lequel il donne sa vie, hein, et il fallait qu'elle reçoive de sa bouche les paroles de vie maintenant qu'il était ressuscité. Voilà. Alors la troisième raison, ben, il faut la prendre du côté de notre Seigneur cette fois. Hein. Comment Jésus ressuscité aurait pu contenir un seul moment l'élan d'amour qui l'emportait vers sa mère? Sachant qui elle était, sachant tout ce qu'elle avait souffert, sachant la place qu'elle avait dans le plan de Dieu et dans l'économie du salut, il est impensable de penser que notre Seigneur l'aurait oublié, ou aurait montré d'une manière ou d'une autre, même s'il l'oubliait pas au fond, aurait manifesté par son attitude une forme d'oubli. C'est pas possible. Alors c'est le secret de Dieu. En quoi consistait cette entrevue, cet entretien de notre Seigneur avec sa mère, juste après sa résurrection? Eh bien, on le saura qu'au ciel, ça. C'est le secret de Dieu, et c'est heureux. Il ne convient pas de révéler les secrets du roi. Voilà. En tout cas, vous voyez, Notre-Dame a vraiment bénéficié la première, c'est une évidence encore une fois, de toutes les ce mystère de la résurrection. Et toute cette atmosphère divine qui en déroule, qui en découle. Voilà. Donc, ce qui se passa dans son cœur à ce moment-là, et c'est des choses d'une certaine manière qu'on peut pressentir, deviner, soupçonner, sans vraiment pouvoir les cerner parfaitement. Ça nous dépasse. Il y a un mystère là surnaturel qu'on ne peut que tout juste soupçonner. Alors, l'autre question, ben, pourquoi les évangélistes ont gardé le silence? Pourquoi ils ont tu cette vérité? On peut parler de vérité, cette évidence. Et si c'est tellement évident, pourquoi ne l'ont-ils pas dit? Alors, pour comprendre ça, il faut d'abord se rappeler le but des évangélistes. Qu'est-ce que veulent les évangélistes? Le but des écrivains sacrés, c'était d'établir, d'affermir dans l'Église naissante la foi en la résurrection de notre Seigneur. Si vous relisez tous les textes des discours de Saint Pierre ou de Saint Paul dans les Actes des Apôtres, donc les premières prédications qui ont été données, les premières prédications du chef de l'Église et puis des apôtres, elle tourne toute autour de cette vérité, cet axe central. Notre Seigneur Jésus-Christ est vrai Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est, ressussité. À cause de ce miracle extraordinaire de la résurrection de notre Seigneur est comme le point d'appui, l'axe central autour duquel toute la prédication apostolique tourne. C'est à partir de là, en quelque sorte, que toute cette prédication se construit. Dieu s'est incarné, il a envoyé son propre Fils pour le salut des pécheurs. Il a été livré aux gentils par les juifs incrédules. Il est mort sur la croix et il est ressuscité. Et donc, il est Fils de Dieu, il est Dieu. Et donc, il faut croire. Pour donner la foi, pour encourager les gens à la foi, les apôtres vont s'appuyer sur ce fait extraordinaire de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un miracle incroyable. Donc c'est vraiment ça qui peut fonder en quelque sorte la foi. Même si la foi reste un don de Dieu, elle ne peut pas être fondée sur quelque miracle que ce soit. Mais le fait de ces miracles nous donne un appui solide. La foi repose sur des faits publics, notoires. Pour atteindre ce but de convaincre tous leurs lecteurs et d'abord tous leurs auditeurs à croire, il fallait que les apôtres rapportent des faits publics, notoires, des faits dont eux-mêmes avaient été les acteurs et les témoins. Alors c'est ce qu'ils font. D'autre part, quel était leur état d'esprit au moment de la résurrection de notre Seigneur? C'est l'incertitude, une hésitation douloureuse. Ils ont vu la passion. Alors même si les trois privilégiés, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, avaient vu la transfiguration, on a le sentiment qu'ils avaient un peu tout oublié. Qu'à ce moment-là, ils ne savaient plus trop à quel saint se vouer, en quelque sorte. Le dialogue des disciples d'Emmaüs est très intéressant de ce point de vue-là, très, très évocateur. Nous avions espéré, speravimus, on pensait que vraiment notre Seigneur, ce prophète extraordinaire qui faisait des miracles, qui prêchait, qui avait une parole si belle, si profonde, et tout ça, qu'est-ce que c'est devenu? Il a été crucifié, il est mort, c'est fini. Et puis nous pensions, nous croyons, vous voyez, speravimus, le mot est très très fort. Donc c'est l'incertitude. Et ils ont fui en plus au moment de la passion. Ils ont tous, alors ils sont un peu penauds. Et donc pour les réconforter, pour les conforter, même leur redonner cette foi un peu ébranlée qu'ils avaient non pas perdue, mais enfin pour laquelle il y avait une grande hésitation, il faut que notre Seigneur se montre sous leurs yeux. Se présente à eux à plusieurs reprises. Donc c'est ce que notre Seigneur va faire. Et il va les visiter, et donc c'est toutes les récits des apparitions du Christ ressuscité. Personne n'a assisté à la résurrection elle-même, mais notre Seigneur a voulu se montrer à plusieurs reprises à ses apôtres dans son état ressuscité, avec son corps glorieux. À ses apôtres uniquement. Notre Seigneur ne s'est pas montré à la foule. Au moment de la naissance de notre Seigneur, il y a eu les bergers, il y a eu les mages. Et puis ensuite, notre Seigneur, à Nazareth, il ne s'est pas caché. Tous les habitants de Nazareth pouvaient le voir. Et puis ensuite, pendant sa vie publique, il s'est montré à tout le monde. Toute la foule a pu constater les miracles qu'il faisait, a pu écouter son enseignement. Après la résurrection, ce n'est plus du tout la même chose. Il n'y a que les apôtres qui vont jouir des apparitions du Christ ressuscité. Parce que les apôtres doivent être les témoins de cette résurrection. Donc c'est à eux que notre Seigneur s'adresse désormais, et uniquement à eux. Il s'adresse à ces hommes qu'il a choisis d'avance, qui ont vu Jésus, qui l'ont palpé, qui ont mangé, qui ont bu avec lui, pour avoir l'assurance absolument qu'il était ressuscité, que c'est bien lui, c'était pas un fantôme. Voilà. D'ailleurs, quand vous lisez les tout premiers mots de l'épître de Saint Jean, c'est très frappant, Voilà ce que dit Saint Jean, ce que nous vous annonçons, nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons contemplé tout à notre aise, nous l'avons touché de nos mains. Le verbe de vie, il s'agit de notre Seigneur. Nous l'avons contemplé, nous l'avons touché de nos mains. Donc notre Seigneur les a ainsi confortés dans la foi. Et alors, si on considère chacune de ces apparitions, chacun de ces témoignages que les apôtres vont transcrire dans les évangiles, justement, c'est très frappant, c'est très décisif. Regardez par exemple Sainte Marie-Madeleine. Donc elle arrive au tombeau, une des toutes premières avec les saintes femmes ayant vu les anges, ayant vu la pierre roulée, les anges qui leur disent que notre Seigneur n'est plus ici, qu'il les attend, qu'il faut aller transmettre aux apôtres qu'il les attend en Galilée. Alors, tout de suite, elle retourne au Cénacle pour prévenir les apôtres, et Sainte Marie-Madeleine, elle, reste. Et puis elle cherche désespérément, elle voudrait savoir où le corps de notre Seigneur a été mis. Elle n'a pas encore compris vraiment qu'il est ressuscité. Elle croit que quelqu'un l'a emporté. Alors elle voit cet homme qui est là, elle pense que c'est le jardinier, elle s'adresse à lui en lui demandant « Où est-ce que vous l'avez mis ?» Ouais, c'est même, quand on y réfléchit un peu, des paroles un peu insensées. On voit qu'elle n'a plus vraiment tout... Elle est tellement prise par l'amour de notre Seigneur qu'elle dit un peu n'importe quoi. Et ce simple mot de notre Seigneur suffit pour révéler sa présence. Marie. Et du coup, là, elle comprend, elle voit tout. Et elle veut le saisir, le toucher. Alors notre Seigneur lui dit « Nolim et tangere », parce que désormais il est ressuscité. Le récit de l'évangile qui nous rapporte tout ça, c'est un récit qui est d'une, comment dire, extrêmement lumineux. On comprend que Sainte Marie-Madeleine, là, a fait un acte de foi. Elle a cru. Elle a vraiment cru. Et cette fois, en lisant nous ce récit, on la partage. On croit à notre tour. Tout comme Saint Pierre et Saint Jean qui arrivent au tombeau, ils entendent donc cette nouvelle que notre Seigneur est ressuscité. Donc du coup, ils courent vers le tombeau. Saint Jean, qui est plus jeune, il court plus vite. Mais comme il est très respectueux de l'autorité, il attend que Saint Pierre arrive. Mais en attendant que Saint Pierre arrive, il se penche. Vous savez, les tombeaux de juifs de l'Antiquité, il y avait deux pièces qui étaient creusées dans le rocher. Une première pièce qui était vide, et puis la deuxième excavité au fond. Notre Seigneur avait été posé sur une tablette de pierre dans une niche qui avait été creusée dans la paroi de cette petite pièce. Alors, le tombeau était donc... pratiquement souterrain, plus ou moins souterrain. Donc il fallait descendre depuis le niveau du sol pour rentrer dans cette grotte. Enfin, les tombeaux étaient comme des cavernes, en quelque sorte. Alors, la pierre ayant été roulée, l'ouverture était béante. Donc Saint Jean se penche, et en se penchant, il voit sur la tablette, la niche qui était dans la deuxième pièce, les linges posés, ou plus exactement, qui sont comme dégonflés. Notre Seigneur n'étant plus à l'intérieur du linceul, le linceul reste exactement dans la position où il avait été placé avec le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il n'a pas été roulé, mis en boule d'un côté, ou plié, ou quoi que ce soit. Il était dégonflé, posé sur cette tablette, mais il n'y avait plus rien dedans. Et le suaire, qui était, comme le texte là est un petit peu difficile à traduire, certaines traductions disent comme roulé à part, mais c'est pas vraiment qu'il est à part, il n'est pas séparé du linceul. Le suaire enrobait la tête de notre Seigneur pour tenir la bouche fermée, comme une mentonnière, si vous voulez. Alors ce suaire qui était, puisque les Juifs considéraient que une fois mort il fallait voiler le visage, donc ce suaire qui était donc sous le linceul était mis par-dessus, il fait forcément une forme de proéminence. Ça fait comme une bosse dans le linge, l'unique bosse sur tout ce linge qui est plat. Alors Saint Jean voit ça, il voit bien que c'est miraculeux, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Si notre Seigneur avait été volé, si son corps avait été retiré, le linceul ne serait pas resté comme ça. Il aurait été déployé. Et puis comme le linceul collait aux plaies de notre Seigneur, le linge n'aurait pas du tout gardé, comme on le voit sur le linceul de Turin, les traces de sang qui ne sont pas du tout arrachées, qui sont parfaitement intactes. Alors que vous savez bien, quand on a eu un pansement, quelque chose sur une plaie qui est encore saignante, si, quand on retire le pansement, bah, ça arrache tout. Et sur la trace qui reste sur le pansement, c'est pas du tout une trace qui est lisible comme elles le sont sur le linceul. Alors Saint Jean, en un clin d'œil, il vit et il crut. Ouais. C'est d'un témoin oculaire. Pour nous, c'est extrêmement précieux des récits comme ça. C'est ça qui conforte notre foi et qui nous ces faits particuliers dont les apôtres sont les acteurs ou les témoins, qu'ils nous transmettent comme ils les ont vus, eh bien, c'est comme si on était présent à la scène. Voilà. Donc tous ces récits, vous voyez, sont pour nous très précieux. Toute cette hésitation et cette ignorance des apôtres, eh bien, elle nous sert considérablement. C'est elle qui va conforter notre propre foi maintenant, aujourd'hui, et dans tous les siècles qui ont suivi les évangiles. Tous les lecteurs de l'évangile ont pu constater vraiment, grâce à ce témoignage des apôtres, que notre Seigneur était vraiment ressuscité. Il n'y a pas de doute possible. Tous ces récits sont décisifs. Entre parenthèses, ça montre la monstruosité des modernistes quand ils nient la résurrection de notre Seigneur. C'est une ignorance totale des textes. Pour pouvoir nier cette résurrection, il faut ne pas avoir lu les textes ou il faut les transformer complètement. Il faut. Et là, c'est devenu très courant. La plupart des exégètes, alors peut-être pas tous, hein, mais il fut un temps, en tout cas dans les années 75, où presque tous les exégètes qui avaient un poste officiel d'enseignement dans l'Église, dans les grandes universités romaines ou dans les universités catholiques du monde entier, niaient ou doutaient de la résurrection physique de notre Seigneur Jésus-Christ, de la réalité physique de la résurrection. C'est une résurrection spirituelle, c'est mystique, c'est une image, c'est une métaphore, c'est une. Bon. Alors, voilà le cadre délimité dans lequel se meut le récit évangélique. Il contient des faits personnels, personnels à tous ses apôtres, à tous ceux que Dieu a choisis, comme témoins de la résurrection de son Fils. L'apparition à la Sainte Vierge, elle est d'un tout autre caractère. C'est d'un autre. On sort de ce cadre. Vous voyez que c'est quelque chose qui est beaucoup trop intime pour entrer dans ce cadre. C'est un mystère qui est d'un autre ordre. Le but de l'apparition à Notre-Dame, c'est pas de conforter quelqu'un qui serait un petit peu hésitant ou qui serait un peu incrédule ou qui aurait en quelque sorte été bouleversé par toute la passion et qui aurait besoin d'être conforté, à qui il faudrait redonner la foi, ou c'est pas ça du tout. C'est d'un tout autre ordre. Notre Seigneur apparaît à sa mère parce qu'il est dans une communion parfaite avec elle, et elle a concentré dans son âme toute la foi de l'Église. Elle n'a jamais douté. Elle croit parfaitement, elle sait d'une certaine manière, enfin si tant est qu'on puisse dire savoir, puisque tant qu'elle ne l'a pas vu, vous savez qu'entre la foi et la science, il y a une certaine incompatibilité. On sait ou on croit, on ne peut pas faire les deux en même temps. À partir du moment où on sait, on ne croit plus. Et tant qu'on croit, c'est qu'on ne sait pas encore. Donc notre âme croit, hein, mais elle croit d'une manière qui est une certitude absolue. Il n'y a aucun doute dans son cœur, absolument aucun doute. Ce n'est pas du tout le cas des apôtres. Les récits évangéliques sont là pour étayer une foi qui est incertaine et vacillante. Alors que chez Notre-Dame, la foi est inébranlable et lumineuse. On est donc dans un autre cadre. Alors c'est pour ça qu'on ne voit pas du tout Notre-Dame s'agiter comme les saintes femmes. Les saintes femmes, qui peut-être avaient en l'occurrence eu davantage de foi que les apôtres, hein. Vous savez, c'est tout à l'honneur des femmes, hein, des chrétiennes. Au moment de la résurrection, les apôtres, c'est pas très brillant, hein. Les saintes femmes, c'est nettement mieux, hein. Bon. Mais elles s'agitent quand même beaucoup, hein. Au début, elles veulent aller acheter des aromates, etc. Puis bon, quand elles arrivent au tombeau, qui va nous rouler la pierre, qui va. Il y a plein de petites inquiétudes. Tout ça, c'est très humain. Et c'est même très éclairant pour nous parce qu'on est pareil. On a besoin, nous aussi, un petit peu de tout ça. Hein. De la même manière, les apôtres, regardez les disciples d'Emmaüs, toutes ces questions qu'ils posent à notre Seigneur, et puis le fait que notre Seigneur ait besoin de leur faire tout un grand cours d'écriture sainte, en reprenant toutes les prophéties depuis Moïse et les prophètes, en leur expliquant il fallait que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire. Il leur réexplique tout ça. Pourtant, ils la connaissaient, la Sainte Écriture. C'était des bons juifs, ils avaient lu tout ça, ils l'avaient médité, ils l'avaient... Et même en écoutant tout ça, leur cœur est tout brûlant, comme ils le disent après, mais ils l'ont pas reconnu. Et il faut que ça soit arrivé à Emmaüs. Alors ils ont cet acte de charité tout à fait délicat. Quand notre Seigneur fait mine de s'éloigner, il dit « Mane nobiscum, restez avec nous ». Et notre Seigneur, bon, qui en fait avait certainement prévu tout ça, reste avec eux et il se fait reconnaître à la fraction du pain, donc la Sainte Messe. Alors là, c'est plus les mêmes. Ça y est, ils ont cru. Et ils refont le chemin inverse. C'est quand même pas tout à côté. Emmaüs, Jérusalem, hein, 120 stades. Ça fait, bon, je sais pas combien, enfin, une quinzaine de kilomètres peut-être, hein, en courant, certainement, pour revenir au Cénacle et tout de suite dire aux apôtres, aïe, on a vu notre Seigneur qui est ressuscité. Et les apôtres disent, bah oui, nous aussi. Hein. Donc, voilà. Ben, on imagine mal la Sainte Vierge au milieu de tout cette agitation, ce mouvement, qui encore une fois est très utile pour nous, hein. Mais on est dans une autre sphère, un autre domaine, hein. Voilà, hein. Et même, il faut aller encore plus loin, si les évangélistes avaient raconté l'apparition de notre Seigneur à Notre-Dame, si même peut-être ils en avaient eu connaissance, on n'est même pas sûr qu'ils en aient eu connaissance, ils sont pas idiots, hein. Ils ont certainement pensé que ça avait été le cas. Mais peut-être notre Seigneur ne leur a sans doute pas dit, peut-être que la Sainte Vierge ne leur a dit qu'après, ou ne leur a pas dit, on ne sait pas. Hein. Mais s'il l'avait raconté, ça, hein, eh bien, du coup, ça aurait empêché peut-être tout ce va-et-vient au tombeau, cette constatation de l'état de la sépulture, ça aurait empêché tout ce contraste frappant, hein, entre toutes ces âmes hésitantes, qui petit à petit sont confortés, s'éveillent à la foi, et puis vont devenir petit à petit un petit peu, les apôtres deviennent comme d'autres hommes. Hein. Bon, il faut encore attendre la Pentecôte. Et tant que la Pentecôte n'est pas venue, ils sont encore un petit peu, ils craignent encore les Juifs, ils s'enferment dans le Cénacle, ils croient cette fois, ça y est. Hein. Mais bon, même quand notre Seigneur leur apparaît jusqu'au moment de l'Ascension, ils attendent encore la restauration d'Israël. Il demande encore à notre Seigneur, mais quand est-ce que vous allez enfin restaurer le royaume d'Israël? C'est-à-dire, quand est-ce que vous allez chasser les Romains? Hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, il y a encore beaucoup de choses très humaines. Et c'est simplement après la Pentecôte, où alors là, ils sont vraiment devenus d'autres hommes. Saint-Pierre sort du Cénacle. Hein, c'est plus du tout le même. Il prêche, et 3000 conversions. Hein, c'est extraordinaire. Hein. Et il ne mâche pas ses mots. Hein, il dit aux Juifs, vous avez crucifié notre Seigneur, et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ben, faut faire pénitence et faut être baptisé. Donc il ne perd pas de temps. Hein. Ben, si le récit de l'apparition à Notre-Dame avait paru dans les évangiles, sans doute serait gommé tout ça, et serait été à notre grand détriment. Hein. D'autant qu'en plus, encore une fois, le mystère de cette apparition de notre Seigneur à Notre-Dame est trop profond pour être raconté dans un récit évangélique. Donc, d'une certaine manière, ça l'aurait un peu galvaudé. Et puis, ça aurait empêché, encore une fois, tous ces petits faits, toute cette agitation autour du tombeau, qui est pour nous extrêmement précieuse. Et qui... Donc, vous voyez, d'une certaine manière... Hein, le récit de cette apparition de notre Seigneur à Notre-Dame aurait compromis la valeur des témoignages rapportés par les évangélistes. Le plan de Dieu, c'était, par les évangiles, de nous donner tous ces témoignages dont on a besoin. Témoignages humains, très humains peut-être, mais qui nous ouvrent la porte de la foi. Et l'apparition de notre Seigneur à Notre-Dame, il n'y a plus rien d'humain d'une certaine manière dans ce fait-là. C'est d'un autre ordre. Voilà. Je vous lis juste là un tout petit texte du père Emmanuel du Mesnil-Saint-Loup, qui conclut un petit peu. En fait, j'ai emprunté beaucoup de choses à une petite étude qu'il a fait, donc c'est pas du tout de moi. Alors voici comment il termine son récit. Il parle de Notre-Dame. Elle garda donc le silence. Elle y était habituée. Elle s'est pas prévalue de cette apparition. Elle a rien dit. Elle garda donc le silence, elle y était habituée. Toute sa vie, elle avait porté des mystères dont nul, hormis Saint Joseph, ne pouvait recevoir la confidence. Le silence ne pesait pas à l'âme de Marie. Retirée en ce silence, plongée en une muette adoration, elle laissa le divin soleil se manifester lui-même et dissiper les brouillards amoncelés. Tous les brouillards qui se trouvaient dans les âmes des apôtres. D'une certaine manière, elle a laissé faire notre Seigneur. Elle a laissé faire les apôtres. Ce n'était pas son rôle à elle. Elle assista joyeuse au progrès de la lumière. Vous voyez, toutes ces apparitions de notre Seigneur ressuscité à ses apôtres, c'est comme un lever de soleil. On a l'impression que pendant la Passion, c'est la nuit, d'ailleurs notre Seigneur le dit lui-même, c'est l'heure des ténèbres. Bon, il veut parler de tous les méchants. Il veut parler des Juifs qu'il crucifie. C'est l'heure des ténèbres, c'est-à-dire l'heure du péché. Et à partir du moment où on a tous ces récits des apparitions, c'est comme un lever de soleil, une aurore. On a l'impression que petit à petit la lumière se fait et qu'elle devient de plus en plus éclatante. Elle a assisté à tout ça et certainement que ça a été pour elle une grande joie. La Très Sainte Vierge est un monde à part. Elle est l'âme, le cœur de l'Église et elle est plus que l'Église. Les évangélistes nous racontent cette naissance de l'Église. Les apôtres, c'est les fondements de l'Église, c'est les colonnes de l'Église. L'Église s'est fondée sur cette croyance, cette foi en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment cette foi s'est bâtie? C'est tous ces récits qu'on va lire à partir de demain, et puis toute la semaine qui suit, là, lundi, mardi, mercredi, on aura chaque fois un récit différent de ces apparitions de notre Seigneur. Quand l'évangéliste saint Marc dit que Jésus apparut pour la première fois à Marie-Madeleine, il veut parler des apparitions faites à l'Église et pour l'Église. Or, la Sainte Vierge est toujours et en tout antérieure et supérieure à l'Église. Jésus a été donné à Marie par l'incarnation avant d'être donné à l'Église par sa naissance à Bethléem. De même, il se manifeste à Marie dans sa résurrection avant de se manifester à l'Église. Vous voyez, à chaque fois, la Vierge Marie, elle passe avant. Elle est là déjà. Elle a déjà profité du mystère. Seulement à Bethléem, naissant de Marie, il se donne par elle au monde. Et au tombeau, ressuscitant par lui-même, il se manifeste non plus par Marie, mais par lui-même. Là est la seule différence. Mais le privilège de Marie n'en est pas atteint. Voilà. Profitons de tout ça. Et puis, passons cette journée en compagnie de Notre-Dame, comme elle, dans le silence, en méditant toutes ces choses dans son cœur, comme il est dit d'elle à deux reprises au moment de la naissance de notre Seigneur, au moment de la visite des bergers, et puis ensuite plus tard au moment de la présentation de Jésus au temple. Elle garda toutes ces choses dans son cœur, ou de recouvrement de Jésus même. Voilà, ainsi soit-il.